Cet été, on aimerait débuter une nouvelle série et justement, on aimerait vous initier avec cette série qui s'intitule « Apprendre à vivre ». Hop. Et « Apprendre à vivre avec les proverbes ». Et dans tous ces livres, ce qu'on découvre, c'est quelle sagesse adopter pour vivre le bonheur. Quelle décision dois-je prendre au quotidien? Comment dois-je, par qui dois-je être guidé dans toutes les décisions de ma vie? Et ce qui était décevant un peu dans ces rayons, c'est que je n'ai pas découvert la Bible. La Bible a aussi une définition de la sagesse à nous proposer, qu'elle reprend à 3 reprises dans 3 livres dans la collection Sagesse aux éditions Parole de Dieu, qui sont Proverbes, Job et l'Ecclésiaste. Un peu comme Luc Ferry qui nous propose une histoire de la philosophie pour apprendre à vivre, ces 3 livres de la sagesse nous proposent une histoire aussi. Ce matin, j'aimerais vous la faire découvrir. C'est une sagesse. C'est une sagesse pour vivre au quotidien. Ça, c'est le livre des Proverbes qui nous l'enseigne. C'est une sagesse pour supporter la souffrance. Ça, c'est Job qui nous l'apprend. Et c'est une sagesse pour donner un sens à sa vie. Je vous invite à lire la première définition de la sagesse dans le premier ouvrage de la sagesse des Proverbes, au chapitre 1, les versets 1 à 7. Proverbes 1, les versets 1 à 7, au milieu de la Bible, pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec celle-ci. Proverbes 1. Les versets 1 à 7, la définition étant au verset 7. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute, il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et leurs sentences. La définition, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science, de la connaissance. Et au chapitre 9, verset 10, elle est reprise. Chapitre 9, verset 10 du livre des Proverbes. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel et la science des saints. C'est l'intelligence. Avant de réfléchir à cette définition, j'aimerais vous faire réfléchir au livre qui contient cette définition des Proverbes. Et pour cela, je vais vous demander d'imaginer 3 pièces d'un puzzle. La pièce du ciel, la pièce du château et la pièce du pont-levis. Ça, c'est le puzzle que j'ai chez moi. Et si vous essayez de prendre ces 3 pièces comme ça, si vous essayez de les mettre ensemble, ça ne fonctionne pas très bien. Si, ça fonctionne un peu style Picasso, mais ça ne fonctionne pas, ça ne donne pas l'image qui apparaît sur la couverture de la boîte du puzzle. Je crois que avec les proverbes, on fonctionne un peu de la même manière. On en lit 1 ou 2, et c'est peut-être une méthode naturelle, mais c'est pas comme ça qu'on va voir la grande image des proverbes. C'est comme un peu d'ailleurs comme votre vie. Si je prenais une pièce de votre vie, une partie de celle-ci, et que je l'isolais de tout le reste, on n'arriverait sans doute pas à comprendre celle-ci. Il serait bien difficile de l'interpréter. Je vous propose que les proverbes font à lire comme une vie, comme un ensemble, qui semble parfois désordonné, mais comme un peu nos vies. Parfois, celle-ci aussi semble un peu désordonnée. Lisons les proverbes comme un ensemble avec une introduction, un cheminement. Et dans ces conditions, on verra peut-être la grande image se former. Et vous savez qu'avec un puzzle, vous devez commencer avec le cadre. Parce que si vous ne commencez pas avec les bords, c'est difficile de mettre les pièces à l'intérieur. C'est la même chose avec les proverbes. Et je vous invite à découvrir quelques clés de lecture de ce livre. Le livre des proverbes, c'était le livre de chevet, le Becherel, les tables de multiplication, le livre de la sagesse des enfants juifs d'Israël, pour les aider à vivre leur vie au quotidien. D'ailleurs, c'est un livre qui est peut-être à notre bénéfice, nous chrétiens, mais c'est peut-être aussi un livre qui est au bénéfice de ceux qui ne le connaissent pas encore. Ce livre, il a une intro, il a une notice, un mode d'emploi, ça c'est les chapitres 1 à 9, et si on ne les lit pas, on risque de faire erreur sur le contenu, notamment prendre la liste des proverbes comme des promesses, alors qu'ils ne sont que des conseils pour un bon comportement. Mais pour revenir à notre texte sur la définition de la sagesse qu'on a lu tout à l'heure, ce qu'on voit, c'est qu'elle est introduite par Salomon au verset 1. Ce n'est pas celui qui a écrit tout le livre des proverbes, mais c'est Salomon qui en est celui qui introduit le livre. Salomon était un homme sage, parce que c'est celui qui a osé demander à Dieu de la sagesse, avant même la richesse et la gloire. Et ce qu'on voit aussi, c'est que cette sagesse dont le livre des Proverbes nous parle, elle nous appelle, verset 5, que le sage écoute, il augmentera son savoir. Celui qui est intelligent acquérera l'art de diriger. Elle nous invite à un parcours de réflexion pour connaître, verset 2, pour comprendre, pour recevoir l'instruction, verset 3. Pour donner aux naïfs un esprit avisé, verset 4, pour comprendre, verset 6. La sagesse des proverbes est pratique, mais elle n'est pas passive. Tout notre être est impliqué, y compris notre intelligence, à réfléchir sur notre pratique. Mais la particularité de ce livre, c'est que c'est la connaissance et la sagesse qui commencent par la crainte de Dieu. Ou pour le dire différemment, la crainte de Dieu, c'est la foi en un Dieu tout-puissant et sage. La sagesse commence avec la reconnaissance que Dieu existe et que la sagesse ne peut venir que de lui. Dieu est au début de l'entreprise de sagesse. Cela peut paraître un peu étonnant d'un certain côté, mais et ça ne veut pas dire qu'il faut mépriser toutes les philosophies athées qui s'engagent sur ce chemin, non? Toutefois, si Dieu n'existe pas, et si le hasard est à l'origine de l'univers, comme certains philosophes nous le proposent, et aussi le hasard est à la base de la sélection naturelle des espèces dont l'homme est le dernier maillon, comme nous le propose Darwin, alors comment pouvons-nous nous engager dans une entreprise qui vise à comprendre l'univers et son ordre si justement celui-ci est le produit du hasard? Comment mon intelligence humaine et ma quête personnelle ne sont pas de facto disqualifiées? On croit souvent que la science contredit la foi. Moi, je crois au contraire qu'elle a plutôt tendance à la prouver. Je m'explique, la science recherche des lois qui expliquent notre monde et comment celui-ci est formé. Elle présuppose justement un univers qui est ordonné par un grand horloger, nous disait Voltaire, qui avait beaucoup de mal à imaginer un univers sans Dieu. Avec la sagesse, c'est un peu pareil. La quête de sagesse n'est rien d'autre qu'une quête de l'ordre voulu pour l'homme. Et pour la femme, cette quête débute avec la conscience de Dieu, la crainte de l'Éternel. La sagesse a donc une composante morale, et surtout dans le livre des Proverbes, et on le voit aussi dans les autres livres de la sagesse, notamment dans sa manière avec laquelle elle ordonne ce qui est bien et ce qui est mal. Mais en quoi la sagesse des proverbes me concerne dans mon quotidien? Elle s'exprime tous les jours dans nos familles. Lorsqu'on dit « ne joue pas dans la rue » ou jusqu'à « tâche de bien choisir tes amis ». La sagesse cherche à répondre à quantité de questions que tous les hommes se posent, à notre désir de vivre heureux, d'avoir une famille harmonieuse, d'aimer le travail que nous faisons, de bien gérer nos amitiés, de réussir et d'être respecté, de vivre dans une société qui maintienne l'ordre, de bien gérer notre temps et notre argent, de ne pas s'embarquer dans des projets douteux, d'avoir une veille constante sur sa bouche. C'est la sagesse de tous les petits choix quotidiens. Elle nous aide à prendre ces petits choix qui finiront par avoir un grand impact par leur effet cumulatif, dont les conséquences sont sans précédent. On peut enfoncer parfois 1000 fois une porte d'une forteresse et avec un bélier et croire que cela n'aura aucun effet, mais ce n'est qu'une apparence, car la porte finira par céder. Tout ce que nous faisons ne surgit pas de nulle part. Cette accumulation de ces petits choix, de ces petits compromis moraux, de ces mauvaises décisions vont finir par nous détruire. Au fond, ces maximes des proverbes sont des conseils pour nous éviter bien des malheurs et bien des tristesses. Cette sagesse nous dit que nous serons la personne que nous sommes en train de devenir. La personne que vous deviendrez sera le résultat de tous ces petits choix que vous faites actuellement. Vous deviendrez, par exemple, ce que vous regardez. Là, par exemple, l'excellent poète chrétien Mick le dit dans sa chanson « Les yeux dans les yeux », où il se met à la place des lunettes d'un homme. Voilà ce qu'il dit dans le couplet numéro 2. « Je vois, c'est les lunettes qu'il voit donc, je vois son smartphone, je vois ses choix de films, j'effleure ses larmes, mais je ressens aussi sa joie de vivre. Je suis témoin quand ça part dans toutes les directions, le vice se lit net, quel que soit le niveau de correction. » On dit que les yeux jamais ne mentent, car je sais c'est qu'ils déterminent la pensée qu'un mec alimente. Lis tes choses pures et tu penseras pur, lis des mensonges et tu verras que la route vers la paix est dure. Si tes lunettes parlaient, que nous dirait-elle, mec? Si Dieu inspectait tes pensées, seraient-elles nettes? Que tu les portes par nécessité ou pour le style, repense à ça la prochaine fois que tu les enfiles. Regardez le beau, le bien, le juste, ce que Dieu apprécie, et vous lui ressemblerez. Regardez le superficiel, l'immoral, le violent, le mensonge, et vous lui ressemblerez aussi. Suivre les proverbes n'a rien de magique. Cela implique de notre part des actions répétées, tant et tant qu'elles finissent par se transformer en habitude et en discipline de vie. Et dans la mesure où elles déterminent ce qui est bien et ce qui est mal, qu'elles sont garanties même par Dieu, elles visent notre bien avant tout. Nous pouvons les suivre et attendre d'elles une vie belle et bonne. Mais, il y a un mais. Mais nous garantissent-elles pour autant une réussite automatique? Ça, rien n'est moins sûr. Mais là s'arrête le livre des proverbes, car il ne nous parle que du commencement de la sagesse. La deuxième partie nous introduit sur un deuxième livre. Je vous invite cette fois-ci à lire non pas la définition de la sagesse au début du livre, cette fois-ci, elle est au milieu, Job chapitre 28. Je vais lire avec le contexte.
Job 28.
Job 28. Il y a pour l'argent une mine d'où on le fait sortir, et pour l'or, un lieu d'où on l'extrait pour l'affiner. Le fer se retire de la poussière, et la pierre se fond pour produire l'airain. L'homme fait cesser les ténèbres, il explore jusque dans les endroits les plus profonds. Les pierres cachées dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort, il creuse un puits loin des lieux habités. Ses pieds ne lui sont plus en aide et il est suspendu, balancé loin des humains. La terre d'où sort le pain est bouleversée dans ses entrailles comme par le feu. Ses pierres contiennent un saphir et l'on y trouve de la poudre d'or. L'oiseau de proie n'en connaît pas le sentier. L'œil du vautour ne l'a point aperçu. Les plus fiers animaux ne sont point foulés. Le lion n'y a jamais passé. L'homme porte sa main sur le roc. Il renverse les montagnes depuis la racine. Il ouvre des tranchées dans les rochers et son œil contemple tout ce qu'il y a de précieux. Il arrête l'écoulement des eaux et il produit à la lumière ce qui est caché. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? L'homme n'en connaît point le prix. Elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. L'abîme dit, elle n'est point à moi. Et la mer dit, elle n'est point avec moi. Elle ne se donne pas contre de l'or pur. Elle ne s'achète pas au pied de l'argent, au poids de l'argent. Elle ne se pèse pas contre l'or d'Ophir, ni contre le précieux onyx, ni contre le saphir. Elle ne peut se comparer à l'or ni au verre. Elle ne peut s'échanger pour un vase d'orfin. Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que les perles. La topaze d'Éthiopie n'est point son égale, et l'or pur n'entre pas en balance avec elle. D'où vient donc la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tout vivant, elle est cachée aux yeux du ciel. Le gouffre et la mort disent, nous en avons entendu parler. C'est Dieu qui en sait le chemin. C'est lui qui en connaît la demeure. Car il voit jusqu'aux extrémités de la terre, il aperçoit tout sous les cieux. Quand il régla le poids du vent et qu'il fixa les mesures des eaux, quand il donna des lois à la pluie et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre, alors il vit la sagesse et la manifesta. Il en posa les fondements et la mit à l'épreuve. Puis il dit à l'homme, définition de la sagesse. Voici la crainte du Seigneur, fait la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Nous sommes à l'étape suivante de l'histoire de la sagesse dans l'Ancien Testament. Et là, nous sommes en face d'un cas très troublant qui semble démentir tous les principes sur lesquels on s'était donné la peine d'insister juste avant. Nous sommes dans l'histoire de Job, un bijou littéraire. Mais il est déconcertant, il gêne, il questionne. Tant le croyant que l'athée, ou que beaucoup de conférences de philosophes qui s'intéressent à Job. Il est déconcertant ce livre. Le chapitre 1 et le chapitre 2 nous présentent la scène et le problème. On fait connaissance alors avec Job, un homme particulièrement bien. Je vous lis le verset 1 du livre de Job. Il y avait au pays d'Outz un homme nommé Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et s'écartait du mal. Ce qu'on aimerait pour tous nos hommes politiques qui soient intègres et droits, qui s'écartent du mal. Pourtant, il est accusé au tribunal divin de servir Dieu par intérêt. L'accusateur, celui qui accuse, en hébreu Satan, reçoit l'autorisation de la part de Dieu de le frapper de divers fléaux pour justement tester si Job est en train de faire, est en train d'aimer Dieu pour Dieu ou pour ce que Dieu lui donne. Job se trouve alors privé d'une grande partie de ses biens, de ses richesses. Il se trouve même privé de ses enfants et même de sa santé, car il est atteint d'un mal dans son corps, que vous connaissez si vous avez déjà lu, qu'il décrit avec, qui le fait terriblement souffrir. Trois amis alors viennent avec l'intention de le réconforter, et pour l'instant ils sont silencieux. malgré tout ce qui lui arrive, Job refuse de maudire Dieu. Cette histoire est assez dramatique et ces trois amis, après, vont essayer de comprendre pourquoi Job subit l'ensemble de ses souffrances. Comment un homme qui fait tout ce qu'il faut peut-il subir un tel malheur? La logique bute avec cette souffrance. Les échanges entre Job et ses amis sont justement là pour essayer de percer le mystère. Et voilà comment le livre se déroule. Il y a des débats entre Job et ses trois amis, du chapitre 3 jusqu'au chapitre 27. Après, il y a la conclusion de Job par rapport à toutes ces discussions, du chapitre 29 au chapitre 31. Et puis, il y a même un monologue d'un ami qui arrive, on ne sait pas d'où il sort. C'est Eliou qui vient rehausser, soi-disant, l'honneur de Dieu. Chapitre 32 à 37. Et au milieu de tout cela, le chapitre 28, celui qu'on a lu tout à l'heure, qui nous redonne la définition de la sagesse. Et qui n'a tout simplement rien à voir avec tous ces discours, avec toute cette histoire en apparence humaine. Pourquoi ce chapitre? Pourquoi une définition encore de la sagesse à ce moment-là? Si l'on revient sur ce chapitre 28, qu'est-ce qu'on y découvre? On y découvre ces deux questions. Où trouver la sagesse? Où peut-elle se trouver, verset 12? D'où vient-elle, verset 20? L'homme est l'auteur de prouesses techniques prodigieuses, mais il est incapable de la découvrir, verset 1 à 11. Cette sagesse est introuvable, verset 14, et inaccessible, verset 21. Elle ne peut ni s'acheter, ni se vendre, verset 15 à 18. Seul Dieu en connaît le lieu et l'a sondé, verset 23 à 27. Et la conclusion de l'être humain, il a assigné comme sagesse la crainte du Seigneur. Voilà ce que consiste la sagesse, s'éloigner du mal. Voilà l'intelligence. Comment comprendre cette conclusion qui est au milieu de notre livre et qui n'est pas tout à fait une conclusion? S'écarter du mal et craindre le Seigneur, c'était justement ce que Job faisait, mot pour mot, de la part le narrateur nous dit exactement ça. Et pourtant, on sait ce qui lui est arrivé, tous les débats que ça a suscité. Toutes ces personnes ont construit sur cette crainte de Dieu, une autre manière de le dire, c'est cette foi en ce Dieu tout-puissant et sage. Mais ces amis de Job, ils ont fini par être enfermés dans des certitudes sur Dieu, sur Job. Certitudes infondées. Et Job, il est resté avec ses doutes. Ces questions insoutenables face à sa souffrance. Et vous pourriez peut-être, vous aussi, vous associer à Job dans cette souffrance. Vous avez peut-être essayé de mettre en œuvre les principes de vie que le livre des Proverbes vous propose pour bien vivre. Faire ces petits choix qui entraînent des grandes conséquences. Vous avez peut-être même placé votre foi en Dieu et c'est pour ça que vous venez à l'église ce matin, régulièrement. Entendre un jeune homme parler de la sagesse, il vous est peut-être malgré tout arrivé l'inimaginable. Vous souffrez peut-être d'une maladie physique et qui vous a atteint et qui vous a pris votre humanité, votre dignité, votre capacité d'être comme tout le monde, même sans doute votre joie de vivre. Vous souffrez peut-être des conséquences de la vieillesse. Vous avez peut-être même quelque chose qui ne se voit pas, une tristesse qui touche l'être profond. Une tristesse que personne ne voit. Malgré tout ce que vous avez, un mari ou une femme ou pas, des enfants ou pas, une famille qui vous aime, des proches, vous êtes un peu comme le psalmiste qui crie « Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon être? Jusqu'à quand des chagrins dans mon cœur ?» Cette tristesse intérieure de l'âme, vous ne vous l'expliquez pas, mais elle est là, malgré votre vie, malgré votre foi. Un peu comme Job, vous criez « Pourquoi ?» et vous cherchez des réponses. Mais la seule chose que vous recevez, ce sont parfois des conseils misérables et le sentiment terrible de vous sentir encore plus seul ou seul. Mais c'est aussi possible que vous viviez comme Job la privation de ce que vous aviez à cause de la perte d'une personne chère. Ou je connais une histoire dans ma famille où une personne a perdu tout ce qu'elle avait, toutes ses richesses. Et un peu au fond de cette situation, comme Job, vous criez pourquoi ? Et vous cherchez des réponses. La sagesse des proverbes du quotidien qui avait parlé de début de connaissance, de début de sagesse, ne vous paraît plus aussi d'une grande utilité en ce qui concerne la souffrance, pour la supporter. La souffrance nous touche tous quelque part, un jour. Et les pourquoi seront nombreux. Les propositions d'explication aussi. Mais dans tout cela, une chose est certaine. Quand l'être humain a atteint les bornes de la compréhension, loin de remettre en question sa démarche de sagesse, la crainte du Seigneur ou la foi en un Dieu tout-puissant et sage devient son ancre au plus profond de la tempête. Une broche solide dans la paroi capable de l'empêcher de tomber dans sa chute. Lorsque de redoutables difficultés surgissent, la crainte de Dieu ou la foi en ce Dieu tout-puissant et sage doit rester plus que jamais la référence. Cette personne qui avait vendu sa société, qui avait gagné des fonds, elle a réinvesti l'ensemble de son argent dans une autre société. Elle a tout perdu, elle a même récupéré des dettes. Et à ce moment-là, au plus profond du trou, la seule chose qui l'a empêché de sombrer dans le suicide, ça a été la crainte de Dieu. La foi en ce Dieu sage et souverain. Nous sommes comme Job, bien souvent, nous ne savons pas pourquoi. Et en face de la souffrance, il y a bien des chemins multiples. Comme l'indique d'ailleurs Luc Ferry dans son livre. La perspective bouddhiste ou stoïcienne nous encourage, pour ne pas être souffrant, à ne pas nous attacher, non par indifférence, mais par précaution. Ainsi, s'épargner la souffrance, il faut vivre seul. Et Luc Ferry, il sait bien que pour vivre l'amour, il faut vivre à plusieurs, donc il renonce à cette sagesse. Et il est beaucoup plus tenté par une autre, le christianisme, il le dit lui-même, car comme il l'indique, il serait volontiers preneur, mais son seul problème, vous savez ce que c'est son seul problème, il le répète à plusieurs reprises dans son livre, son seul problème, c'est qu'il n'y croit pas. Il est preneur, mais il n'y croit pas. Alors, pour lui, que faire? À part attendre la catastrophe en y pensant le moins possible, c'est ses mots. Peut-être rien, dit-il. Mais peut-être aussi, malgré tout. Quelle tristesse! Luc Ferry voit l'avantage gigantesque du christianisme dans le secours qui vient d'un autre. Mais il n'est pas prêt à croire à sa présence. La sagesse enseignée dans le livre de Job, au contraire, nous invite à nous souvenir qu'au plus profond de nos détresses, Dieu reste là et qu'il est prêt à nous secourir pour celui qui place sa confiance en lui. La confiance en Dieu, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, malgré tout, c'est toujours la méthode. Je vous invite à ce dernier parcours de l'histoire de la sagesse. Cette fois-ci, avec le livre de l'Ecclésiaste. Non pas au début, comme on l'a vu avec le proverbe, non pas au milieu, avec le livre de Job, mais cette fois-ci à la fin du parcours, en conclusion du livre de l'Ecclésiaste au chapitre 12 et au verset 8 à 14. Ecclésiaste 12, verset 8 à 14.
Ecclésiaste 12.
Versets 10 à 14. Vanité, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Outre que l'Ecclésiaste fut un sage, il a encore enseigné la science au peuple et il a examiné, sondé et mis en ordre un grand nombre de sentences. L'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables et ce qui a été écrit avec droiture sont des paroles de vérité. Les paroles des sages sont comme des aiguillons et rassemblées en un recueil, elles sont comme des clous plantés. Elles sont données par un seul maître. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si on voulait faire un grand nombre de livres et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Écoutons la fin du discours. La définition est là. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Dans cette dernière étape de la sagesse, un Salomon étrangement déguisé nous envoie au visage les déceptions et les frustrations de l'existence. Rappelé par un refrain, si vous liviez l'Ecclésiaste, « Vanité des vanités, tout est vanité, tout n'est que futilité. » Et ici n'est plus la question de la sagesse du quotidien, ni de supporter la souffrance, mais de réfléchir avec l'Ecclésiaste à ce que doit faire, verset 13, ce que doit faire tout homme. Ou pour le dire différemment, plus simplement, à quel sens ou quelle valeur on va donner à notre existence. Pour vivre et assumer cette vocation humaine et y donner un sens, l'Ecclésiaste nous propose cette fois-ci deux impératifs, craindre Dieu et suivre ses commandements. Car tout son livre aura montré que la quête de sens à son existence est apparue fuyante, presque insaisissable, inattrapable, et bornée par une échéance terrible, la mort. À sa manière encore, Luc Ferry nous étonne en disant à peu près la même chose, et je le paraphrase dans son introduction. L'existence humaine doit être hantée par la seule question qui mérite que l'on se pose pour apprendre à vivre, la question du salut. Car nous sommes des êtres finis, mais parmi tous les animaux, nous sommes les seuls à en être conscients. Cette quête du salut est donc la quête de notre vie pour apprendre à vivre. L'Ecclésiaste consacre quelque part la faillite de la sagesse. Faillite d'une sagesse aux prises avec le terme, la mort. Non pas de n'importe quelle sagesse, car la sagesse doit aller au bout de ses investigations et c'est ce qu'a fait l'Ecclésiaste. Il n'a pas reculé devant les énigmes, il n'a pas reculé devant les frustrations de la vie. Il a persévéré, ça c'est ses 12 chapitres. Mais le leitmotiv est toujours là, vanité des vanités. Et c'est assez intéressant, il ne conclut pas le livre de l'Ecclésiaste. Par contre, la sagesse, cette fois, questionne le sens même de l'existence et nous renvoie à une certaine urgence. À ce moment-là, les observations et les déductions humaines ne sont plus utiles. Cette fois-ci, la valeur de l'existence est en jeu. Et celui qui en apprécie la valeur, c'est Dieu. Dieu amènera toute œuvre en jugement. Le parcours de la sagesse dans l'Ancien Testament nous offre un parcours de difficultés croissantes. La sagesse nous a invités à son écoute, à sa recherche. Toutefois, elle ne nous a jamais invités à l'écouter seule. La sagesse trouve son appui dans la présence d'un Dieu hors de nous-mêmes, tout puissant et sage. Et en cela, elle se distingue de toutes les autres philosophies que Luc Ferry qualifie de doctrine du salut par soi-même, sans l'aide de Dieu. C'est dans ces mots. à chaque fois, dans la littérature de sagesse de l'Ancien Testament, la crainte de Dieu, qui est la manière de parler de la foi en Dieu, nous a accompagnés constamment dans ce parcours. Sans jamais nous lâcher, Dieu est resté celui qui nous indique la sagesse à suivre pour notre quotidien. Ça, c'était les proverbes. Le dernier rempart quand la souffrance arrive est in fine la seule personne qui donne un sens réel à notre existence. Paf, il intègre la mort dans son plan. La mort n'est pas la fin du parcours. C'est en ce sens que la délivrance, le salut, nous est offert en Dieu et plus particulièrement pour nous chrétiens. En celui qui fait révéler être la sagesse même, et ça on le lit dans 1 Corinthiens. Par lui, vous êtes unis à Christ qui est devenu pour nous cette sagesse de Dieu qui justifie, qui purifie et qui délivre. L'horizon de la justice que nous pouvions craindre avec l'Ecclésiaste, car Dieu amènera toute œuvre en jugement, n'est plus à craindre en Jésus-Christ. La sagesse divine est devenue un homme. Elle nous a devancés pour l'application de tous ces proverbes. Elle s'est livrée pour nous, elle a souffert, comme on l'a chanté tout à l'heure, pour nous obtenir la justification. C'est nous qui méritions. Il a obtenu cette justice pour nous. Et in fine, pour nous donner l'espérance du salut, c'est-à-dire la vie éternelle qui ne commence pas au ciel, mais qui commence dès maintenant. Une vie où l'on est connu de Dieu et où nous le connaissons. En résumé, Jésus a vécu en sa personne tout le parcours de cette sagesse. Apprendre à vivre selon l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est donc accepter cette quête de la sagesse qui ne se limite pas à nous seuls, mais qui nous plonge dans les bras de Dieu. Ces bras de ce Dieu qui s'est incarné, qui est mort pour nous et qui nous a toujours précédés et qui maintenant nous invite à le suivre. Je vous invite à prier. Vraiment, merci Père éternel de nous avoir donné ces livres de sagesse. Donne-nous de nous en être plus familiers. Donne-nous de pouvoir puiser à cette quête constante de la crainte de Dieu, de cette conscience de ce Dieu tout-puissant et sage, qui nous donne tous les outils pour vivre dans notre quotidien, qui nous donne sa présence quand on souffre et qui nous donne une véritable raison de vivre. Merci parce que tu es un Dieu qui n'est pas resté lointain, créateur, tout-puissant, mais tu as pris une forme humaine, et cela par amour, cela pour nous. Et c'est avec une immense reconnaissance que on veut te suivre. Et on veut qu'un plus grand nombre puisse être joyeux de découvrir un sens profond qui passera la mort. Vraiment, Seigneur, ouvre le cœur de personnes qui n'ont pas encore défilé de suivre cette sagesse de Dieu en Jésus-Christ. Amen.